Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 août. Vous écoutez Charles Matin et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que la nuit a été bonne, que vous avez réussi à trouver le sommeil malgré la canicule. D'autant que c'est pas fini, le pic de chaleur est attendu aujourd'hui. On fera un point complet dans un instant avec Anthony Kaczmarek. Avant ça, je vous donne le programme. Le gouvernement espagnol vient de lancer une grande campagne pour lutter contre le diktat du Summer Body. Vous savez, cette injonction à afficher un corps parfait sur la plage durant l'été. Une campagne qui vise les femmes qui se sentent souvent obligées de ressembler aux filles des magazines et d'Instagram. Mais les hommes sont aussi soumis à cette pression. Question ce matin. Est-ce que c'est un problème pour vous d'aller à la plage? Est-ce que vous êtes complexé à l'idée de vous mettre en maillot de bain? Venez témoigner au 3216 sur l'application Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins RMC. Deux tiers des Français avouent ne pas aimer une partie de leur corps, leur ventre, leurs fesses. Et vous, racontez-nous. Au sommaire également ce matin, faut-il en finir définitivement avec la corrida en France? C'est ce que veut Aymeric Caron, ancien animateur devenu député de la France Insoumise. Il veut déposer une proposition de loi à l'Assemblée. Il affirme que c'est un spectacle immoral qui n'a plus sa place au XXIe siècle. D'accord ou pas avec ça, on en débat là aussi. Et puis il y aura évidemment tous nos rendez-vous ce matin sur RMC, la Story Sport après le journal de 5h30. On va parler de Formule 1 pour remplacer Fernando Alonso. L'écurie Alpine a annoncé un nouveau pilote. Sauf que l'intéressé a démenti. Alpine s'est légèrement ridiculisé. On va y revenir. Et puis Angèle viendra nous parler de Bullet Train, la sortie cinéma du jour avec Brad Pitt. On va aussi jouer à la voix du jour juste après le journal de Marguerite. Avant ça, la météo avec toi, Anthony Kaczmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Les températures seront donc au plus haut aujourd'hui.
Exactement, on sera généralement entre 33 et 39 degrés, un peu moins sans doute en bord de Manche, sur les plages de l'Atlantique et sur les plages de la Méditerranée, grâce à quelques petites brises marines qui feront du bien. Mais donc il fera 33 à Lille, vous aurez 34 à Langres et à Aurillac, 35 à Paris, 36 degrés à Strasbourg, à Dijon, à Clermont-Ferrand, 37 à Grenoble et Limoges, 38 à Lyon et Toulouse, jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, localement 40 degrés vers Cahors. Sous le soleil toujours, quelques grisailles côtières encore près de la Manche, quelques nuages aborderont la côte atlantique en fin de journée, il y aura toujours des averses localement orageuses vers les reliefs du sud. Je vous rappelle que 27 départements sont placés par Météo France en vigilance orange canicule du sud-ouest au nord-est, en passant par la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anthony.
Mercredi 3 août,
l'info sur RMC.
Il est 5h, vous écoutez RMC. Bon réveil à tous, c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Une prime pour les travailleurs modestes, mesure pour le pouvoir d'achat votée par le Sénat cette nuit. Une aide plus limitée que celle prévue par le gouvernement. La France a soif et chaud au pic de la canicule aujourd'hui. 28 départements en vigilance orange. Et puis de la frustration pour l'AS Monaco hier soir. Match nul hier face aux Néerlandais. La qualification en Ligue des Champions se jouera sur le match retour.
Les mesures pour le pouvoir d'achat de nouveau débattues cette nuit au Sénat.
La version finale de la loi devrait être définitivement votée cet après-midi avec quelques modifications. Cette nuit, par exemple, les sénateurs ont voté une prime de rentrée très différente de celle prévue par le gouvernement. Explication d'Hélène Terzian.
Aider les travailleurs modestes plutôt que ceux qui touchent des prestations sociales. Voilà l'objectif de la mesure. Initialement, cette aide exceptionnelle s'élevait à 100 euros majorés de 50 euros par enfant et devait être versée en septembre aux bénéficiaires des minima sociaux RSA, minimum vieillesse, étudiants boursiers, APL. Cette nuit, les sénateurs l'ont donc transformée en une aide de 150 euros réservée aux seuls allocataires de la prime d'activité auxquels sont intégrés les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Malgré un dispositif qui coûtera moins cher à l'exécutif, le gouvernement s'y est montré défavorable puisqu'environ 4 millions de foyers pauvres en seraient désormais privés. De quoi faire hurler la gauche. Vous profitez de la nuit pour taper sur les plus pauvres, s'est énervé un sénateur écologiste. Reste que députés et sénateurs doivent encore se mettre d'accord sur le texte, ce qui, selon un conseiller de l'exécutif, a peu de chances d'arriver.
On en vient à cette chaleur insupportable. Il a fait très chaud cette nuit, il va faire encore plus chaud aujourd'hui. C'est la journée la plus chaude de la semaine. 27 départements en vigilance orange canicule, ça brûle. 40 degrés prévus dans le sud-ouest cet après-midi. Une fois ce pic passé, la chaleur devrait se déplacer vers l'est. La canicule qui renforce la sécheresse, toute la France est depuis hier sous surveillance. Et cette alerte doit nous faire réagir. Écoutez Vasquez Nandré, hydrologue et directeur de recherche à l'INRAE.
Ça fait 30 ans qu'on considérait qu'en France, on n'avait pas de problème d'eau, on n'avait pas de problème de sécheresse et qu'il fallait pas investir pour essayer de s'en prémunir. Et là, je pense qu'en fait, cet événement exceptionnel, comme un peu l'événement de 76 à l'époque, il va faire réfléchir, il va peut-être falloir soit accepter de manger moins, soit si on veut garantir la souveraineté alimentaire, accepter de lancer des nouveaux programmes d'équipement pour que les agriculteurs puissent irriguer.
La vigilance donc en France, et à vous signaler aussi, on passe en vigilance rouge, feu de forêt dans les Landes, annonce de la préfecture des Landes hier. D'ailleurs, un feu s'est déclaré sur la commune de Laluc. Il n'était pas fixé hier soir, mais la situation évolue favorablement selon les pompiers. 30 hectares de pins sont partis en fumée, 8 maisons ont été évacuées à titre préventif.
RMC 5h03, les services d'urgence sont débordés depuis plusieurs mois. Est-ce que les solutions mises en place avant les vacances sont efficaces?
On fait le bilan ce matin. Depuis un mois, dans certains services d'urgence, on expérimente une régulation en amont, par téléphone, grâce au SAMU, proposition de Jean-François Braun avant qu'il ne devienne ministre de la Santé. Résultat, oui, il y a moins de passages, mais le 15 est saturé. Reportage dans les hôpitaux de Tarn-et-Garonne avec Émeric Dantreuil.
Depuis le 1er juillet, il faut l'autorisation du 15, le numéro du SAMU, pour accéder aux urgences de Montauban et de Moissac, de jour comme de nuit. En un mois, les résultats sont là. Hélène Pizu est la directrice du SAMU dans le Tarn-et-Garonne.
Le volume de passage a diminué entre 25 et 40%. Les professionnels arrivent à gérer les flux de manière beaucoup plus optimale. Pour les patients, il y a moins d'attente.
Mais le revers de la médaille a lieu au centre d'appel local du SAMU.
On a observé une augmentation du volume d'appels qui varie entre 50 et 75%. On a pu armer une ligne supplémentaires, mais effectivement, c'est très lourd à absorber.
Selon elle, ce dispositif est nécessaire. Encore faut-il s'en donner pleinement les moyens. Au CHU de Grenoble, Guillaume Debatty, chef de service du centre d'appel du SAMU, a lui aussi des difficultés.
Là, on est quasiment à 1800 appels par jour. 15% d'appels en plus, sans vraiment plus de moyens pour le faire. On n'arrive pas à pourvoir toutes les lignes qui ont été ouvertes. Ça allonge le temps d'attente. Donc, les appels qui relèvent de l'urgence vitale sont toujours traités en priorité, mais pour un problème moins urgent, que des fois, il faut attendre un peu plus d'une heure pour avoir le médecin au téléphone.
À Troyes, à Bordeaux ou encore dans les hôpitaux de Vendée, c'est en tout une quarantaine d'établissements en France qui ont rendu obligatoire cette régulation médicale.
Reportage d'Émeric Dantreuil pour RMC. Le ministre de la Santé va aujourd'hui à la rencontre des soignants en Loire-Atlantique recueillir leur remontée de terrain. À l'international à présent, un déplacement sous haute tension. La présidente de la Chambre des représentants est arrivée hier à Taïwan. Nancy Pelosi est l'un des personnages les plus importants de l'État américain. Elle montre sans équivoque qui vote l'appui des États-Unis à la démocratie taïwanaise, et Pékin a du mal à le supporter et multiplie les menaces. L'ambassadeur américain a été convoqué et des avions de chasse chinois ont survolé le détroit de Taïwan. Des gesticulations militaires pour Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS.
La Chine a déjà annoncé qu'elle allait procéder à un nombre de tirs de missiles à longue portée, qu'elle allait lancer un nombre d'opérations qui vise à démontrer sa capacité d'entourer l'île. Et je ne pense pas que la Chine ait intérêt aujourd'hui à se lancer dans une opération armée contre Taïwan, qui immanquablement impliquerait les États-Unis, la première puissance militaire mondiale, et surtout qui est attaché de risque de nucléarisation du conflit. N'oublions pas que la Chine, comme les États-Unis, sont deux puissances nucléaires. Bien, je pense que la Chine réfléchira à deux fois avant de se lancer dans une telle opération.
En France, le Parlement s'est prononcé pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Il faut maintenant que les 30 pays membres approuvent l'entrée des deux pays nordiques. Réaction du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a dit sur les réseaux sociaux que ça permettra de renforcer la posture dissuasive de l'Alliance Atlantique ainsi que la sécurité européenne. C'est une décision historique pour ces deux pays, la Suède et la Finlande. Ils renoncent à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine.
5h06, le foot, match nul pour l'AS Monaco hier soir.
Le score 1-1 face aux Néerlandais du PSV Eindhoven, troisième tour aller des qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions. Un match frustrant, Maxime Tillette, les Monégasques étaient tout proches de la victoire.
Oui, leurs attaques dans les derniers instants ont failli faire mouche. Monaco a livré toutes ses forces dans la bataille, de quoi satisfaire l'entraîneur Philippe Clément malgré le match nul.
On peut pas avoir des regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous. La mentalité était vraiment bien. Le deuxième temps, nous avons dominé tout le temps avec beaucoup de pression. Pour moi, ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match. C'était nous.
Et il faudra donc faire la différence mardi prochain au Philips Stadion d'Eindhoven. Le buteur du soir, Axel Disasi, s'attend lui à un beau duel.
Chaque match à son histoire. On sait que là-bas, ça va être un match très compliqué. On est déjà parti là-bas la saison dernière et on sait qu'avec l'appui de leurs supporters, ils ont une très grande force avec ça. Donc on va se concentrer sur nous et je pense qu'il faut qu'on réitère les belles choses qu'on a fait ce soir.
L'an passé, les Monégasques avaient gagné 2-1 là-bas en Ligue Europa. Ils savent ce qu'il leur reste à faire donc pour atteindre les barrages de Ligue des Champions.
Et Paul Pogba aussi, c'est ce qu'il lui reste à faire, se reposer et se faire soigner. Pas d'opération, mais une mise au vert pendant 5 semaines pour le joueur de foot. L'objectif, évidemment, c'est de disputer avec les Bleus le Mondial à partir du 21 novembre au Qatar. Et puis, c'était attendu, Corinne Diacre reste à la tête des Bleus en poste depuis 2017. Elle pilotera l'équipe de France pendant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie à l'été 2023. Et bien sûr, pour les Jeux Olympiques en 2024 à Paris.
Merci beaucoup Marguerite. À tout à l'heure avec Sébastien Krebs et toute l'équipe. C'est l'heure de jouer sur RMC.
RMC,
la voix du jour.
À la voix du jour, cette voix qui vous permet de remporter de jolis cadeaux. Si vous reconnaissez l'extrait qu'on va vous diffuser, écoutez bien, je vous donnerai un indice juste après.
Notre système de santé fait face à des problèmes structurels. Mon devoir de ministre chargé de la santé est d'apporter des réponses à long terme. Dès la rentrée, nous réunirons l'ensemble des parties prenantes pour travailler sur l'organisation générale de notre réponse aux besoins de santé de nos concitoyens.
Oui, parce que la voix, c'est pas vraiment très très simple. Mais il a lui-même donné un indice capital, puisqu'il s'exprime en tant que ministre de la Santé. De qui s'agit-il ? Vous pouvez vous aider, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est à ce poste. J'arrête de donner des indices. Si vous avez reconnu, vous appelez le 3216 et vous pourrez peut-être repartir avec un sac de plage et une crème protectrice et hydratante de la marque Kirinès. Bonne chance à vous ! À suivre sur RMC, comment en finir avec le diktat du Summer Body ? Le gouvernement espagnol vient de lancer une grande campagne pour dire aux femmes de se sentir libres, d'aller à la plage, comme elles sont. Et vous, est-ce que c'est un problème ou non? Est-ce que vous êtes complexé sur la plage ou est-ce que vous assumez totalement votre corps? 32-16, on vous attend.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin. RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
Anaïs Castagna.
5h10 sur RMC, êtes-vous complexé sur la plage?
C'est la question du jour sur RMC.
On vous pose cette question ce matin parce que le gouvernement espagnol vient de lancer une grande campagne pour inviter les femmes, toutes les femmes, à venir sur la plage cet été, quel que soit leur corps, quelle que soit leur morphologie, qu'elles soient grandes, petites, qu'elles aient des formes ou non, peu importe qu'on voit leur vergeture, leur cellulite, l'été est aussi à vous, dit-il sur une affiche. Le but, c'est d'en finir avec le mythe du summer body, d'aider les femmes à s'assumer. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde, quand on voit les pubs, les magazines et les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème féminin. De nombreux hommes ont du mal à se déshabiller parce qu'ils se trouvent trop maigres, trop gros. Venez témoigner, hein. On vous attend ce matin au 3216. Dites-nous ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous vous assumez ou non? Vous nous dites. Lucille Pascanet est allée à Palavas-les-Flots. Écoutez ce qu'on lui a répondu.
À l'ombre sous un parasol, Charlotte et Kenza, la vingtaine, arrivent tout droit de région parisienne pour profiter de la plage. Avant de partir, elles avaient toute une liste de choses à faire.
On va s'épiler, on va regarder nos maillots de bain, on va tout checker quoi. Et c'est pour nous-mêmes, c'est pour éviter d'être regardé aussi, enfin passe-partout quoi.
Éviter d'être regardé parce qu'une fois arrivés sur le sable, leurs complexes ne les ont pas abandonnés. Difficile de se plaire en maillot de bain pour les deux jeunes femmes.
J'aime pas spécialement mon corps, alors du coup.
Et qu'est-ce que je vais mettre? À quoi je vais ressembler? Tout au rapport au corps en fait. Hein.
Pour elles, la cause de leurs complexes, ce sont les réseaux sociaux.
Montre que des choses parfaites, avec des corps, avec des formes incroyables.
C'est sûr, on a toute envie du coup d'avoir le corps de certaines sur les réseaux.
On complexe de rien.
Et puis aussi, le regard des autres directement sur la plage, où on n'hésite parfois pas à observer ses voisins.
Je pense que c'est humain finalement de le faire, mais après...
On se regarde forcément, on n'a que ça à faire en fait.
Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas aller le dire. Voilà, bon, on a vu, ça ne nous plaît pas, mais nous au final, si elle est bien comme ça, la personne, autant la laisser quoi.
D'ailleurs, Luca est juste à côté. Lui a fini par accepter son corps. Il voit aussi du bon sur les réseaux.
Les personnes qui ont déjà un complexe, ça leur fera pas du bien. Après, le fait qu'il y ait d'autres gens, des gens normaux en quelque sorte, qui s'affichent, ça peut les rassurer.
Des complexes, sa grand-mère, Michel, en a eu plus jeune. Mais aujourd'hui, pour les septuagénaires, pas question de renoncer au bikini.
Quand j'étais adolescente, oui, j'étais très, très, très menue. J'enviais les filles qui avaient des cuisses normales, une poitrine, tout ça. Et puis finalement, avec les années, moi, je suis ravie. Bon, il y a les années qui passent, l'âge, les transformations, mais je me manque de pièces. ça me gêne pas. Hein.
Corps athlétique et bronzage travaillé, Anna Bull sur son transat. À 50 comme à 20 ans, elle a toujours assumé son corps.
Je suis partie d'une génération, c'est la génération du monokini. Je pratique encore le monokini et je m'aperçois que les jeunes, eux, ne le font plus du tout. Donc on sent bien qu'il y a un malaise par rapport au corps, par rapport à un corps qu'on doit montrer ou ne pas montrer. C'est flagrant.
En 2021, selon un sondage, à peine 19% des Françaises de plus de 18 ans pratiquaient sur la plage le sein nu. C'est moitié moins qu'il y a 12 ans.
Et une enquête YouGov de 2016 montre que 2/3 des Français n'aiment pas une ou plusieurs parties de leur corps. Le ventre arrive en tête des complexes, suivi des poignées d'amour. Plus d'un Français sur deux font tout pour cacher ces défauts qui les gênent. Dites-nous ce qu'il en est pour vous. On vous attend au 32-16. Tiens, Damien nous appelle. Bonjour Damien de Limoges, en Haute-Vienne. Ouais. Ça va bien Damien?
Bien
bah,
oui,
ça va.
Ça va, je vous remercie.
Est-ce que vous avez du mal à vous mettre en maillot de bain, vous ou pas?
Oh non, pas du tout, non. Moi, j'ai zéro complexe.
Ça n'a jamais été un problème pour vous, Damien?
Nous, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là, non. Non, moi, soit n'importe quel âge, de ce côté, il n'y a aucun problème. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance de ce côté-là, j'en profite.
Parce que vous n'avez pas de complexe physique?
Ah non, aucun. Non, non, moi, tout va bien.
C'est vrai? Non, mais c'est extrêmement rare. En général, on a tous voilà, une partie de notre corps qu'on n'aime pas afficher. En général, bah, c'est souvent voilà, les fesses, hein, je le disais, le ventre, les petites poignées d'amour. Mais c'est formidable de trouver quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui s'assume. Vous subissez pas, vous, cette pression des réseaux sociaux, des magazines, parce qu'on en parle, parce que ça touche énormément les femmes, évidemment, mais aussi les hommes.
Ah oui, c'est vrai, il y a de tout, mais moi, j'ai envie de dire que moi, ça ne me concerne pas. Puis, d'ailleurs, de la famille en général. Ouais. On ne juge pas dessus.
Et autour de vous, c'est la même chose? Vous avez des amis qui ne sont pas très à l'aise, que vous ne sentez pas très à l'aise?
Oui, ça, on a toujours, ça, naturellement, oui, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, après nous, on les fait comme on peut, déjà d'une part. Et puis après, on va en fonction, quoi, tout simplement. Ouais. On va toujours plus simple.
Non, mais c'est bien, hein, parce que je peux vous dire que ça peut être une vraie souffrance. Hein. Certains Français refusent de mettre les pieds à la plage par peur de se montrer, d'être jugés. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous venez témoigner. Hein. Merci beaucoup, Damien, de nous avoir appelé ce matin. Juste une petite question. Vous êtes à Limoges, en Haute-Vienne, il ne fait pas trop chaud, là?
19. Ouais, 19 en ce temps. Mais la journée, par contre, on monte à 35. Hein.
Ouais, c'est pas trop compliqué, vous êtes rondier. Vous finissez pas trop tard, ouais. À quelle heure vous finissez, vous, Damien?
Là, à 6h. À 6h, j'ai fini.
À 6h. Ah, bon, bah là, du coup, ça va aller. Merci beaucoup, Damien, d'avoir appelé ce matin sur RMC et passé une excellente journée. Il est 5h16. Tout de suite, RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous.
Comme tous les matins, cet été, on reprend des nouvelles de tous ceux que nous avons aidés et accompagnés dans Apolline Matin cette année. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Ce matin, Johanna, tu nous donnes des nouvelles des habitants de Puget-sur-Argent, dans le Var. Leur environnement est pollué par une énorme montagne de déchets. Ils en avaient ras-le-bol. Hein.
Oui, une montagne de gravats de plus de 20 mètres de haut, 160 000 tonnes de déchets issus de chantier. Tout ça juste à côté des maisons des riverains qui nous ont contactés en octobre. La poussière est partout, des habitants dénoncent une pollution des sols et de l'eau. C'est en fait la décharge d'une entreprise de travaux du coin, la société Amaré BTP. C'était bien légal au départ, mais le tas de déchets est devenu beaucoup trop important au fil des années. Un arrêté préfectoral pris en 2021 met en demeure l'entreprise. Elle doit tout enlever d'ici la mi-octobre. On pourrait donc se dire « super, ça va se régler, tout doucement, naturellement ». Sauf que depuis notre reportage, rien n'a bougé. Au contraire, la montagne continue de s'élargir. Agnès, une des riveraines, ne croit plus à la fin de son cauchemar.
Il y a toujours autant de poussière. Les voitures sont toujours sales. C'est en mouvement et le ciel est constamment marron et pas bleu. Rien n'a évolué sur ce plan-là. En 3 mois, ils pourront jamais enlever tout ce qu'ils ont entassé. C'est pas possible. Il faudrait faire venir les camions toute la journée, toute la nuit en continu. C'est pas possible. Ni le propriétaire, ni la municipalité pourra faire enlever ce tas. Ça va coûter beaucoup trop cher pour remettre le terrain en état.
Pour vous dire à quel point la situation est critique, un des habitants qu'on avait interviewé en octobre a déménagé à cause de la montagne de gravats.
Mais les autorités, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ne répondent pas?
Eh bien, avec Mao Becker-Granier, on a relancé la mairie. Elle assure être du côté des habitants. Elle a déjà pris des arrêtés pour mettre fin à cette décharge. Mais l'entreprise ne les respecte pas. La mairie attend en fait une décision de justice dans cette affaire pour pouvoir en faire plus. Car le patron de l'entreprise de BTP sera jugé en septembre pour avoir installé des dépôts de déchets illégaux sans avoir l'autorisation de la préfecture. Il est aussi poursuivi pour détournement de fonds de son entreprise à des fins personnelles. Paul Boudoube est le maire de Puget-sur-Argent.
Il y a un jugement qui aura lieu au mois de septembre. S'il perd et qu'il ne fait pas appel, il y aura expulsion avec les moyens de police et de gendarmerie. Voilà.
Et s'il s'en va en laissant son tas de gravats ?
S'il s'en va, il faudra trouver une solution pour l'enlever. Ça sera une fois de plus une mairie qui sera encore pénalisée pour enlever des tas de saletés. Voilà. On trouvera quand même toujours une solution.
De notre côté, nous avons recontacté la préfecture. Elle nous assure que si l'entreprise n'a pas évacué les déchets au 18 octobre, alors de nouvelles sanctions administratives et pénales seront prises, sans plus de précision et sans non plus nous dire comment nettoyer cette décharge si l'entreprise ne le fait pas. Ouais. Pourtant, c'est ça qu'attendent les habitants. Mais bien sûr, on va suivre tout ça.
Ouais, on va suivre ça, évidemment, bien sûr. Je vous fais confiance. On ne lâche rien. J'espère que ça va être nettoyé. Merci beaucoup, Johanna. Et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Dans un instant, sur RMC, à suivre notre débat du jour. L'Espagne lance une grande campagne pour lutter contre les diktats du summer body, cette pression qu'on nous inflige d'afficher un corps parfait sur la plage durant l'été. Certains vivent ça extrêmement mal au point de ne pas vouloir y mettre les pieds. Est-ce que c'est votre cas? Vous nous dites au 32-16. Je vous attends ce matin. Puis dans un instant, il y aura aussi les insolites de Quentin. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
Bienvenue sur RMC si vous nous rejoignez. Il est 5h20, bon réveil à tous. À la une ce matin, le Sénat a voté cette nuit un amendement pour remplacer la prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros réservée aux minima sociaux par une majoration de 150 euros aux bénéficiaires de la prime d'activité tollée à gauche. On va y revenir. Nouveau pic de chaleur attendu aujourd'hui dans les communes. On appelle les personnes âgées hein, tous les jours pour voir si elles vont bien. Comme Marie-Jeanne, habitante du Vaucluse, très éprouvée. Écoutez-la.
Ah ben, c'est très fatigant. On a le corps beaucoup plus lourd. Tous les jours, on nous téléphone. Vous buvez, madame Chevrier, vous buvez. Je dis, ben oui, vous inquiétez pas.
Et puis la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, défie la Chine en se rendant à Taïwan. Elle est arrivée sur place hier soir, colère de Pékin, qui considère cet acte comme une grave provocation. L'ambassadeur américain en Pékin a été convoqué et des actions militaires ciblées ont été annoncées. Nancy Pelosi dit être venue en paix dans la région. Et puis on voit sur les températures avec toi, Anthony. Évidemment, les températures seront extrêmement élevées aujourd'hui. Ce sera le pic, hein ?
Oui, exactement. Elles le sont déjà d'ailleurs ce matin avec actuellement 27 degrés à Nice, 22 à Perpignan, 21 à Paris et Bordeaux. On est souvent entre 18 et 21 degrés sur le pays. Dans l'après-midi, comptez globalement de 33 à 39 degrés, 35 à Paris, 36 à Strasbourg, 39 à Bordeaux. Toujours sous le soleil, à peine quelques grisailles côtières près de la Manche et quelques averses sur les reliefs du sud. Averses qui seront orageuses vers les Pyrénées.
Merci beaucoup Anthony. C'est l'heure des Insolites de Quentin.
Les Insolites de Quentin.
Bonjour Quentin.
Bonjour.
Tu nous parles ce matin d'une influenceuse qui a des soucis depuis quelques jours suite à une vidéo mal digérée par le public.
Oui, je vous présente Tizi, influenceuse chinoise spécialisée nourriture qui est suivie par près de 8 millions de personnes et qui passe son temps à nous raconter sa vie et nous montrer ce qu'elle mange. Si on parle beaucoup d'elle en ce moment, c'est parce qu'elle a récemment publié une vidéo de cuisine. Comme à son habitude, jusque-là, rien de mal, sauf que cette fois-ci, les retombées ne sont pas très positives pour elle.
Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Elle a trop cuit sa nourriture ?
Alors non, ça aurait été trop facile. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée dans un magasin de Nanchong, une ville qui se trouve dans l'ouest de la Chine, et elle a acheté un requin blanc, espèce protégée donc, certainement achat au marché noir, et ensuite, elle s'est fait un plaisir de le dévorer. Et puis, il faut pas oublier les fans avides de contenu, elle a publié toute cette expérience sur son compte Douyin, la version chinoise de TikTok.
Elle s'est filmée en train de manger une espèce en voie de d'extinction.
Oui, dans la vidéo, on la voit même acheter le poisson, se prendre en photo à côté, histoire de bien montrer la grandeur du requin. Et après, la préparation est filmée, la découpe, l'assaisonnement, la cuisson, un vrai tuto cuisine.
Ouais, du coup, c'est plutôt c'est un bad un bad buzz pour elle.
Alors, c'est ça, ses abonnés n'ont pas vraiment apprécié. Ils l'accusent d'être prête à tout pour faire des vues. Et c'est plutôt réussi puisque même la police a consulté la vidéo. Ce qu'elle a fait est illégal et passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison en Chine. Ah, oui. Une enquête a donc été ouverte sans précision de la part des médias chinois sur la mise en cause dans cette affaire de l'influenceuse ou pas. Il y a déjà pas mal d'influenceurs qui ont eu des bad buzz. Et
oui, je me souviens. Ouais.
Souvent après avoir publié leur vidéo qui a causé souci, on les voit de retour sur Internet. Ils s'excusent, ils publient des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc on attend maintenant la vidéo de Tixi qui devrait calmer un petit peu tout ça.
Non mais c'est scandaleux.
Une chose est sûre, ça ne va pas aider les influenceurs à redorer leur blason.
Quentin, tu nous parles aussi plus léger, hein, plus léger, oui. D'une niche pour chiens qui doit être vraiment très très belle parce qu'elle coûte très très cher.
Alors oui, elle est belle, elle coûte 150 000 $.
Oula, c'est... Avec ça, tu t'achètes une maison, quoi, un appartement.
Non, mais c'est un truc de fou. Baptisé Inudo No, les démos japonais.
Mais qui achète ça, son chien?
Les gens qui achètent des œuvres d'art à 20 millions, j'imagine. Qu'ont rien d'autre à faire. Baptisé Inudo No, des mots japonais Inu, chien, et Dono, seigneur féodal. Cette niche est conçue pour être, selon la société qui la fabrique, une demeure élégante et luxueuse pour le meilleur ami de l'humanité. Alors on est d'accord à ce prix-là, ça peut être luxueux.
Ouais, c'est une édition limitée, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça coûte très très cher. En gros, pour avoir la chance de l'avoir, il faut commander. Une fois que la commande est passée, s'il y a plusieurs acheteurs qui en ont envie, il y a une loterie et voilà, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. En fait, elle coûte cher parce qu'il y en a une qui est faite tous les ans. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Une seule par an.
D'accord. Bon, merci, Quentin. Moi aussi, j'ai un petit truc à te raconter. Cristiano Ronaldo, je sais pas si t'as vu ça, en tête du classement des joueurs de Premier League les plus insultés sur Twitter. C'est l'Ofcom, l'autorité britannique régulatrice des télécommunications, qui a en fait analysé des millions de tweets adressés à des joueurs du championnat anglais sur la première moitié de la saison 2021-2022. Résultat, 60 000 contenus haineux relevés, dont 12 520 messages adressés contre Cristiano Ronaldo, le joueur de Manchester United. C'est simple, c'est le joueur de Premier League qui est le plus insulté sur le réseau social. Et visiblement, il y a eu un pic de messages haineux contre lui au moment de la signature de son contrat. C'était en août 2021. Et il faut s'attendre à une nouvelle salve de critiques puisque la star portugaise a fait savoir qu'elle voulait quitter le club au plus vite. Ce sont d'ailleurs les joueurs de Manchester United qui sont les plus critiqués. Le défenseur Harry Maguire arrive en deuxième position et le français Paul Pogba apparaît aussi dans ce triste classement avec près de 1500 tweets insultants. Je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un véritable fléau.
Mais les réseaux sociaux, c'est horrible. Ah. Et on le voit avec l'influenceuse.
Ouais, exactement.
Ça pose plein de soucis.
Exactement. Merci Quentin. Tu sais ce qu'on va faire, Quentin? C'est un de mes moments préférés. On va accueillir le gagnant, en tout cas, je l'espère. Du jour, de la question du jour.
RMC, la voix du jour.
De la voix du jour. C'est Jérôme qui nous a appelé, qui pense avoir reconnu la voix du jour, la voix qu'on a diffusée juste après le journal de Marguerite Dumont. Bonjour Jérôme.
Bonjour Anaïs.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Vous nous appelez de Perte dans les Ardennes, c'est ça?
Rethel.
Ah, de Rethel dans les Ardennes.
Attention.
Rethel qu'on connaît pour son boudin.
Boudin blanc,
que j'adore.
La capitale du boudin blanc.
Bien sûr, que j'adore. Jérôme, vous pensez avoir reconnu la voix du jour, qui n'était pas évidente ce matin. Hein. On va la rediffuser et on aura votre réponse juste après.
Notre système de santé fait face à des problèmes structurels. Mon devoir de ministre chargé de la santé est d'apporter des réponses à long terme. Dès la rentrée, nous réunirons l'ensemble des parties prenantes pour travailler sur l'organisation générale de notre réponse aux besoins de santé de nos concitoyens.
Alors Jérôme.
François Braun.
François Braun, ministre de la Santé, bravo à vous. Franchement,
merci pour l'indice, hein, Anaïs.
Mais non, mais c'était pas simple de reconnaître sa voix.
Vous savez quand même pas longtemps. Était, reconnaissable parce qu'on l'a entendu pendant deux ans.
Ouais.
Mais lui, non, j'avoue que je ne savais pas. Hein, mais bon, j'ai fait Google.
Bravo. C'est déjà ça, bravo. Il vous permet de gagner un sac de plage et une crème de la marque Kérinès pour vous ou pour qui vous voulez. J'en profite, hein, on l'a diffusé parce qu'en fait, il était interrogé hier par les députés sur la situation dans les services d'urgence. L'occasion de vous dire qu'on va beaucoup en parler ce matin dans la matinale. On va faire le point sur la situation avec Dominique Savary, chef du département de médecine d'urgence au centre hospitalier d'Angers, membre du SAMU Urgence de France, pour voir comment ça se passe parce que c'est une question très très importante. Jérôme, toute petite question sur notre débat du jour, le summer body, tout ça. Vous êtes complexé quand vous allez à la plage?
Bon, j'ai pas l'occasion d'y aller parce que j'ai pas de vacances, mais sinon, non.
Jamais? C'est vrai, vous avez pas de difficulté avec ça, c'est pas un problème. Vous n'en avez jamais vu, vous assumez totalement votre corps.
On est comme on est.
Eh ben, vous avez bien raison, Jérôme. Et je suis ravie, on est ravis de vous envoyer ces jolis cadeaux. Passez une excellente journée sur RMC.
Merci, vous aussi, bonne émission.
Merci beaucoup, à très vite. Il est 5h28. Dans un instant, la météo suivie du journal.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
Il est 5h30, bon réveil, le journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. 39 degrés attendus localement cet après-midi. Le pic de cette nouvelle vague de chaleur va être atteint aujourd'hui. Nancy Pelosi est arrivée à Taïwan. Une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine qui renforce un peu plus les tensions entre Washington et Pékin. Et puis c'est acté, tout basketteur français qui joue en Russie ou en Biélorussie ne pourra pas porter le maillot de la sélection tricolore.
Il va encore faire chaud aujourd'hui. Le pic des chaleurs de cette nouvelle vague est d'ailleurs attendu cet après-midi.
Et ce matin, ce sont toujours 27 départements du sud et du sud-est qui sont toujours en vigilance orange canicule. Le Vaucluse est justement l'un d'eux. Alors devant cette situation particulière, les autorités prêtent une attention à nos aînés. Depuis la canicule de 2003, les communes ont l'obligation de tenir des registres de personnes vulnérables et isolées pour pouvoir les appeler et vérifier qu'elles vont bien. Reportage d'Estelle Henry à Mérindol, où il va faire 36 degrés cet après-midi.
Pas de risque de déshydratation pour Marie-Jeanne. Elle veille à son stock d'eau dans le frigo.
Regardez, alors, j'ai 3 litres d'eau et encore là j'ai des petites bouteilles.
En revanche, la vieille dame de 75 ans qui vit seule est éprouvée par la chaleur.
Ah ben, c'est très fatigant. On a le corps beaucoup plus lourd. On a du mal à se déplacer, tout ça.
Comme 40 autres personnes âgées de la commune, Marie-Jeanne peut compter sur la mairie pour prendre soin d'elle tous les jours.
Oui, tous les jours, on nous téléphone pour savoir si ça va, si tout va bien. Vous buvez, madame Chavrier, vous buvez. Je dis, ben oui, vous inquiétez pas.
La septuagénaire est inscrite sur le registre canicule de la commune et à ce titre bénéficie d'une attention particulière. Johannes Sautier, directeur général des services.
On met en place un appel phoning avec des questions très ciblées pour vérifier leur état psychologique et physique. On est très sensible à notre population et notamment les seniors. Ils sont quand même en souffrance, les chaleurs fatiguent, il y a une certaine lassitude.
Si le registre de personnes vulnérables est obligatoire dans toutes les mairies, l'inscription, elle, se fait sur la base du volontariat.
Le reportage d'Estelle Henry. Alors on le disait, le pic de chaleur qui est attendu dans les prochaines heures avec des températures qui vont osciller entre 33 et 39 degrés. La France qui a chaud et la France qui est à sec. Tout le territoire métropolitain est concerné par une vigilance ou une alerte sécheresse. Concrètement, des restrictions de l'usage de l'eau sont appliquées à différents niveaux un peu partout, Romain Poiseau.
Si on compare avec les records de sécheresse de 1976, la situation est plus critique au sud-est de l'Hexagone, sur le bassin méditerranéen et dans les Alpes. Par contre, au nord-ouest, dans le bassin parisien, dans le massif central ou en Bretagne, le niveau des cours d'eau reste légèrement plus haut que lors de la sécheresse de 1976. Aujourd'hui, tous les départements de métropole sont concernés par le plan sécheresse. 58 départements sont en état de crise, l'alerte maximale, comme par exemple les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Indre ou encore les Alpes-Maritimes. Seuls les prélèvements d'eau prioritaires y sont autorisés pour boire ou se laver. 31 départements sont en alerte renforcée, comme le Loiret, l'Indre, l'Allier, le Tarn ou le Lot. L'irrigation des terres agricoles est réduite de moitié. Et puis, 4 départements seulement sont en alerte. Dans ce cas, l'arrosage des espaces verts est interdit seulement entre 8h et 20h.
Les précisions signées Romain Poiseau pour RMC.
Il est 5h33 sur RMC. L'information de la nuit, le Sénat valide le projet de loi de finances rectificative 2022.
Avec 225 voix pour, 101 contre, les sénateurs qui ont débattu jusqu'à très tard ou très tôt, c'est selon un nouveau budget qui prévoit la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre pour septembre et octobre, puis à 10 centimes pour novembre et décembre. Autre point qui a été voté, la prime de rentrée, jusque-là réservée aux minima sociaux, est remplacée par un coup de pouce de 150 euros aux uniques bénéficiaires de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés.
L'actualité internationale maintenant qui nous emmène à Taïwan, où tous les regards sont tournés.
Et puisque c'est là qu'a atterri hier soir Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, qui ce matin affirme être venu en paix. Taïwan, île au large de la Chine qui cristallise les tensions puisque Pékin précisément la considère comme faisant partie de son territoire. La visite d'une haute représentante américaine ne passe donc pas et jusqu'à tard dans la soirée, Florian Chevalet, Nancy Pelosi a maintenu le doute sur sa venue à Taïwan.
Il est 22h45, heure locale, lorsque Nancy Pelosi atterrit à Taïwan. Elle est accueillie par le ministre taïwanais des Affaires étrangères avant de lui assurer le soutien inconditionnel des États-Unis. Une visite aussitôt condamnée en direct à la télévision d'État chinoise.
C'est une violation sérieuse du principe de souveraineté de la Chine et de son intégrité territoriale. Une atteinte grave aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité. L'armée populaire de libération va réaliser une série d'opérations militaires autour de l'île.
Plus tard, 21 avions militaires chinois entrent dans la zone de défense de Taïwan. Une situation électrique pour Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, même si pour lui, le risque d'un conflit armé entre les deux puissances reste faible.
La Chine, à ce jour, elle n'a pas la puissance de feu, elle n'a pas les moyens de coercition qui lui permettrait de mettre à genoux Taïwan et partant les États-Unis. Donc s'engager dans un conflit serait catastrophique évidemment et pour la Chine et pour le Parti communiste chinois.
De son côté, la Russie, alliée de la Chine, considère cette visite comme une provocation et accuse les Américains de déstabiliser le monde.
Les conséquences de cette visite, la Chine qui convoque l'ambassadeur américain à Pékin pour lui reprocher le voyage, je cite, choquant, de Nancy Pelosi. Et puis en bref, le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe est arrivé en fin de journée, hier au large des côtes turques sur la mer Noire. Première étape pour ce bateau qui doit être inspecté maintenant avant de rejoindre Tripoli, au Liban.
On termine ce journal avec cette conséquence de la guerre en Ukraine. Elle est sportive puisque les basketteurs français qui jouent en Russie et en Biélorussie ne peuvent plus faire partie de la sélection tricolore.
La Fédération française de basket a tranché, plus de maillot bleu pour celles et ceux qui font ce choix, y compris pour les Jeux Olympiques de 2024, Arnaud Valadon.
Ils sont deux internationaux à ne plus pouvoir porter le maillot bleu. Louis Labéry, 34 sélections, et Livio Jean-Charles, 4 sélections. Ils ont signé avec des clubs russes. Le meneur Thomas Hurtel est lui présent avec les Bleus pour disputer le championnat d'Europe. Sans club pour la saison prochaine, il était fortement pressenti à Saint-Pétersbourg. Il s'est engagé à ne pas y aller.
J'ai signé. Donc sinon, je serai pas là. Que je sois fan ou pas, ça, c'est pas votre problème. Vous m'avez demandé si j'ai signé, je l'ai signé. Ouais. C'est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Donc je voulais en faire partie et on verra ce qui se passe pour le futur.
Son coéquipier Evan Fournier est joueur des Knicks de New York en NBA. Bien que pas concerné directement, Fournier estime que cette attestation à signer dépasse les prérogatives des joueurs.
Moi, je suis pas fan de ce type de choses, pour être honnête. Alors, je l'ai signé parce que pour le bien de l'équipe et que ça sert à rien de faire des problèmes pour rien. Il y a beaucoup de conflits à travers le monde. Et si on faisait ça pour tous les conflits, on jouerait dans aucun pays.
Comme dans d'autres disciplines, les clubs russes et biélorusses ont été, dès le début du conflit, exclus des compétitions internationales.
Sport toujours avec ce résultat foot. Match nul hier soir, un partout entre Monaco et le PSV Eindhoven pour le troisième tour aller des qualifications de Ligue des Champions. Autres infos, la sélectionneure de l'équipe de France féminine de foot, Corinne Diacre, prolongée jusqu'en août 2024. Et puis Paul Pogba peut croire au Mondial avec les Bleus, le milieu de terrain de la Juventus de Turin a décidé de ne pas se faire opérer du genou droit. Il sera donc absent des pelouses durant seulement 5 semaines.
Merci beaucoup. Les courses ?
Et oui, absolument. C'est à Anguin à 20h15. Voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 8, Fabulous Dream. Leur outsider, c'est le numéro 10, Easy Maza. C'est à suivre évidemment sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Stéphane. À tout à l'heure avec Sébastien Krebs et toute l'équipe. C'est l'heure de la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Cédric Danteville. Bonjour Cédric, on parle Formule 1. Salut, tiens, ce matin avec toi. C'est le bazar hein, chez Alpine. L'écurie française a annoncé hier tenir un nouveau pilote pour la saison prochaine avant de se faire ridiculiser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, ça s'appelle prendre, comment dire ? Oui, c'est ça, une grosse claque. Voilà, ou un énorme râteau. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans une équipe de F1, il y a deux pilotes. Actuellement chez Alpine, le français Esteban Ocon et Fernando Alonso. Mm-hmm. Mais lundi, l'Espagnol, en fin de contrat, a annoncé son départ.
On allume les feux rouges et ça va être parti. Je vois une Alpine. Excellent départ de Fernando
magnifique.
Alonso.
Un magnifique départ. Voilà, le double champion du monde s'en va chez Aston Martin. Une très mauvaise surprise pour Alpine qui espérait prolonger Alonso.
Premier camouflet pour l'écurie française, mais pas le plus dur.
Non, 18h11 hier, communiqué officiel sur Twitter, le constructeur tricolore assure tenir le successeur d'Alonso en la personne d'Oscar Piastri, un grand espoir de 21 ans, déjà présent chez Alpine en tant que pilote de réserve, en tant que remplaçant, si vous voulez. Une info mercato reprise par tous les médias, sauf que 2 heures plus tard, plus rien n'est sûr.
Voilà, il y a une grosse production hein, ce matin.
Oui. On a bossé. Ben, en fait, ce sera non. À 20h, Oscar Piastri dément sur Twitter. C'est faux. Je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Et pour que ce soit bien clair, le jeune Australien en remet une couche. Je ne piloterai pas pour Alpine l'an prochain.
Comment l'écurie a pu faire une annonce officielle si rien n'était signé? Moi, je ne comprends pas.
On a tous du mal à comprendre ce qui s'est passé.
Je suis Laurent Rossi, directeur général d'Alpine. Pour moi, la F1, c'est l'excellence, et c'est l'excellence dans le business comme dans le sport.
Oui, alors pas forcément en communication, hein, l'excellence. Alors l'écurie française voulait, pensait certainement avoir le destin du pilote en main, car ce jeune Oscar Piastri a fait ses gammes au sein de l'Académie Alpine. Et si l'écurie a communiqué si vite, c'est peut-être aussi pour éviter que son talent maison parte à la concurrence. Piastri et son entourage.
Pour prendre de vitesse
la concurrence. Ouais. Voilà. On savait que Piastri et son entourage négociaient avec d'autres équipes, Williams ou encore McLaren. C'est d'ailleurs là, hein, chez McLaren, que l'Australien devrait découvrir la F1 l'an prochain.
Merci beaucoup, Cédric. À demain. Si vous voulez réécouter Cédric à tout moment de la journée, moi je le fais de temps en temps.
Oh, c'est gentil.
Et la Story Sport est à retrouver sur l'appli RMC. Il est 5h41.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC et ce matin, on va ouvrir un autre débat. La corrida est un spectacle qui n'a plus sa place au XXIe siècle. Ce sont les mots d'Aymeric Caron, le député de la France Insoumise, qui se revendique antispéciste, veut présenter une loi pour l'interdire. Il juge cette pratique immorale. Visiblement, vous êtes très nombreux à être d'accord avec ça. Reportage Siam Spencer et Tanguy Roman Clavelou.
Un air de dégoût sur le visage de Jean-Marie, retraité à la simple évocation du mot corrida.
De voir ça, ça me donne envie de vomir. Et les gens qui acceptent ça, ça me donne envie de vomir.
Même son de cloche pour Guillaume, étudiant parisien.
Contre. Vraiment contre. Parce que ça fait, au final, ça fait souffrir le taureau et je vois pas l'utilité en fait de faire souffrir un animal alors qu'on pourrait s'amuser et sans que le taureau souffre en fait.
Originaire du sud-ouest, Vincent est lui plus mitigé, difficile de trancher entre le bien-être animal et les souvenirs d'enfance.
Et quand j'étais petit, on allait quand même voir des corridas et maintenant avec le recul, le bien-être animal, tout ça, c'est vrai que moi j'y pensais pas une seule seconde, c'était festif, c'était quelque chose qui est ancré, qui est de chez nous et c'est un sujet qui est quand même assez délicat.
Magali possède elle des origines espagnoles et reste très attachée à cette tradition.
J'adore les animaux, mais je dois dire que je suis la première embarquée quand j'ai assisté à une corrida. En fait, ça me prend aux tripes. Il y a quelque chose qui va au-delà de l'animal.
Pour Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, c'est clair, il soutiendra la proposition de loi d'Aymeric Caron visant à interdire la corrida.
Pourquoi fermer les yeux et ne pas punir parce que soi-disant, cette tradition espagnole s'est implantée dans quelques régions françaises. À terme, on pense que de toute façon, elle est condamnée parce que les nouvelles générations ne sont pas forcément intéressées à participer à ce genre de spectacle. Mais là, ce que fait Aymeric Caron, finalement, c'est un petit peu d'accélérer le phénomène. Nous sommes en France la patrie des droits de l'homme. On aimerait aussi qu'elle devienne un peu, en tout cas, la patrie des droits des animaux.
D'après un sondage IFOP paru en début d'année, près de 8 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction de la corrida.
Bon, vous nous dites si c'est votre cas. On a fait le choix de vous en parler ce matin, est-ce qu'il faut l'interdire? Ça fait débat partout, hein, chez nous, mais aussi en Espagne, où la télé publique ne diffuse plus de corrida en direct depuis 2007. La tauromachie est désormais cantonnée aux chaînes payantes ou régionales. Vous nous dites au 32-16, on vous attend. Mais ce matin, au 32-16, c'est un autre débat qui vous fait réagir. C'est cette campagne du gouvernement espagnol pour en finir avec le diktat du summer body. Je vais déjà accueillir, Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour tout le monde.
Qui nous appelle d'Andaï. Bonjour Philippe. Vous, est-ce que vous êtes complexé ou pas sur la plage? Est-ce que vous avez du mal à vous mettre en maillot?
Bon, je ne suis pas complexé sur la plage parce que j'y vais pas.
Ah bon, quand même. Vous habitez à Andaï. Vous n'allez jamais à la plage?
J'y vais pas. Non, je ne vais pas à la plage.
Pourquoi?
Oh, parce que je n'ai pas le temps et que je n'ai pas l'envie d'aller à la plage. Après, c'est plus personnel. Après, bon, oui, étant gosse, j'étais complexé. Maintenant, je ne suis plus complexé.
Ah oui, quand même. Et ton gosse, ça veut dire quoi? Jusqu'à quel âge?
Oh, jusqu'à 17-18 ans, près.
17-18 ans. Et après, qu'est-ce qui change la donne? Parce que vous êtes nombreux à m'écrire ça ce matin. Oui, quand j'étais jeune.
J'ai grandi, j'ai maigri à un temps, et après, j'ai compris que le regard des gens, surtout des femmes, on va dire, plutôt que les femmes, parce qu'on pense qu'on ne plaît pas, et que, voilà, on est complexé dans le sens où on ne plaît pas, on pense qu'on ne plaît pas aux gens, et après, voilà, quand on voit que les femmes, ça plaît quand même d'avoir du bide ou un petit peu de bide et tout. Ben oui, c'est après, on vit comme on est. J'ai la chance d'avoir une femme maintenant qui m'apprécie pour ce que je suis. Donc voilà, c'est plus super important.
Ouais. Vous le tout ce qui est réseaux sociaux, magazines, vous regardez pas tout ça, vous êtes pas influencé?
Oh, je m'en fous complet. Je suis plus, dans mon métier, je suis plus avec du bon gras, du bon beurre pour faire des viennoiseries, des chocolatines,
Philippe,
et tout
Boulanger,
le reste.
Oui, c'est vrai. Vous avez donc des après, enfants, Philippe? Vous avez peut-être des enfants, ça, en tant que parent, ça, oui, c'est vrai fille, que ça oui. angoisse. Votre fille, elle a quel âge?
Elle a 10 ans.
10 ans. Et elle, tout va bien? Non, parce que des fois, ça commence très tôt, les complexes. Hein,
Mais pour l'instant, ça va. Ça ouais. a l'air d'aller. Après, on verra dans le futur. Hein. C'est toujours pareil. Hein.
Bon, bah merci.
C'est plus à partir de la 6e, je pense, qui est ouais. plus compliqué.
Ouais.
Le jugement est plus à partir de la 6e que en primaire. On s'en fout des enfants.
Merci, Philippe, d'avoir merci appelé, d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Excellente journée et bon courage, puisque Philippe nous appelle en direct de la boulangerie. Élie nous appelle de Fontenay-le-Comte, en Vendée. Bonjour, Élie.
Oui, bonjour. Bonjour à toute votre équipe et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Élie, vous avez 73 ans.
Oui, c'est ça.
Est-ce que
alors,
vous...
moi, pardon. Allez, moi, dites-moi. Je voulais dire aux femmes qu'elles ne doivent pas avoir de complexe. Parce que les hommes n'aiment pas beaucoup les femmes parfaites. C'est très compliqué à gérer pour un homme, une femme parfaite, entre guillemets, on se comprend.
C'est-à-dire,
c'est très compliqué.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Élie? C'est très compliqué.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, parce que vous prenez une femme qui est parfaite physiquement. Ok, on peut dire que c'est bien. Mais pour l'homme à gérer, il a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, c'est compliqué pour lui. Tandis qu'une femme classique, avec ses défauts et tout, bah c'est plus facile à gérer pour lui.
Une femme classique, général, une femme n'est jamais classique, Élie. Une femme n'est jamais classique. Élie, vous, personnellement, vous n'êtes pas complexé quand vous allez sur la plage? Je ne sais pas si vous y allez
Non, moi,
vous êtes
pas.
En Vendée.
Oui, mais j'y vais pas parce que je suis tout seul, donc c'est compliqué, on peut pas gérer ses affaires et aller à la plage. Mais même sinon, j'aurais pas de complexe parce qu'à 73 ans, on s'en fout. C'est bon quand on a 20, 25 ans à se regarder. Mais moi, je pense, et je maintiens ce que je dis, une femme trop parfaite physiquement, hein, c'est compliqué à gérer pour un homme. Il a peur de pas être à la hauteur parce que on existe à travers le regard des autres. Tout est là. Hein, si vous êtes regardé, vous existez. Si on ne vous regarde pas, vous n'existez pas. Alors moi, je veux dire aux femmes qu'elles ne doivent pas avoir de complexe. Pas du tout. Elles sont comme elles sont. Moi, j'ai habité au Canada.
Mais j'aimerais bien en entendre. Vous savez quoi, Élie? J'aimerais bien en entendre ce matin des femmes. Savoir justement ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles osent aller à la plage ou pas? Est-ce qu'elles se sentent regardées? Est-ce qu'elles regardent Instagram, les magazines? Est-ce que ça a une influence ou pas pour elles? Je lance un appel. Merci beaucoup, Élie. Et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RMC. Merci d'avoir appelé pour réagir. Il est 5h47. Dans un instant, vous savez ce qu'on va faire. On va retrouver Angèle. Angèle, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Ouais, vas-tu nous parler de cinéma, je crois?
Eh bien, exactement. On est mercredi, c'est les sorties ciné. Mmh. Aujourd'hui, il y a un gros blockbuster qui sort. Vous avez peut-être vu les affiches avec Brad Pitt.
Oui, évidemment.
Bullet Train.
Et on ne va pas rater ça avec toi. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Il est 5h50, vous écoutez RMC. Je vous rappelle les principaux titres ce matin à la une. La totalité des départements français touchés par des mesures de restriction d'eau, alors qu'on est donc en canicule, pic de chaleur aujourd'hui. À Seyans, dans le Var, les habitants ont depuis quelques jours un certain volume d'eau à ne pas dépasser pour éviter la coupure générale. Et sous peine de sanction, le maire René Hugo compte sur eux.
Il faut que les gens aient conscience de cette difficulté et qu'ils aient surtout le sens du partage. Le partage, puisque c'est une quantité d'eau à partager sur un territoire.
Le Sénat a adopté cette nuit le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat, un amendement pour remplacer la prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros réservée aux minima sociaux par une majoration de 150 euros aux bénéficiaires de la prime d'activité a notamment été voté. On y reviendra. Et puis la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan. Pékin considère cet acte comme une provocation. L'ambassadeur américain à Pékin a été convoqué et des actions militaires ciblées ont été annoncées. Nancy Pelosi dit être venue en paix dans la région. La météo, les températures avec toi, Anthony. Tiens, soyons précis.
Déjà élevés ce matin. 27 degrés actuellement à Nice, 23 à Marseille, 21 à Paris et Bordeaux, 20 degrés à Nantes, 17
17 à Strasbourg et Lille. 27 départements sont pour l'instant toujours en vigilance orange canicule. Entre la vallée du Rhône et les Alpes, entre le Puy-de-Dôme, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace, et entre le Midi-Toulousain et la Corrèze, en cours de journée, comptez globalement de 33 à 39 degrés, 33 à Lille et à Marseille, 35 à Paris et Nantes, 36 à Strasbourg et Dijon, 37 à Grenoble, jusqu'à 39 degrés à Bordeaux. Alors ce sera un peu moins élevé près de la Manche avec quelques grisailles côtières, un peu moins aussi sur les plages de l'Atlantique et les plages méditerranéennes grâce à une petite brise marine, mais la journée sera pleinement ensoleillée partout ailleurs avec quelques nuages qui aborderont la côte atlantique en toute fin de journée et éventuellement une averse sur les reliefs du sud.
Merci Anthony. C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Angèle, ce matin avec toi, on parle cinéma et, oui. Et tu es allée voir pour nous le blockbuster de l'été qui sort aujourd'hui.
Oui, ce blockbuster, c'est Bullet Train. Vous avez peut-être vu des affiches un peu partout. On voit notamment Brad Pitt, l'un des personnages principaux. Alors Bullet Train, c'est un film réalisé par David Leitch, un thriller aussi haletant qu'absurde qui se passe dans un TGV entre Tokyo et Kyoto.
Je suis prêt.
Ah, mais c'est super, Coccinelle.
Coccinelle ?
C'est ton nouveau nom de code.
Oh, ok, je vois. Les Coccinelles sont censées avoir de la chance.
Tu n'as pas la poisse.
Tu crois ? Ma poisse est légendaire. Même quand je veux tuer personne, il y a des morts. Tu te souviens du groom suicidaire ?
Tu l'as emmené à l'hôpital.
Accroche-toi, mon grand !
Et il n'est pas mort.
Ok, et le mariage ? T'es qui, là ? John Heisbourg ? Il faut se réinventer.
Tu voulais un plan simple pour ton retour aux affaires. Il n'y a pas plus simple.
Alors, si l'intrigue se déroule au Japon, c'est parce que le film est tiré d'un roman, Maria Beetle, d'un auteur japonais de romans policiers, Kotaro Isaka. Brad Pitt, lui, il incarne un assassin un peu gauche, maladroit, voire un peu crétin quand même, pour reprendre ses propres mots. Dans ce train, il va tout vivre, Anaïs.
Bon, j'imagine qu'il y a du suspense.
Ouais, et Bullet Train, c'est un film à l'allure d'un Tarantino dans la violence, un tarantinesque, on pourrait dire, mais il est aussi, voilà, il ressemble un peu aux grandes comédies américaines dans l'humour. Il y a beaucoup de vannes, beaucoup de petites punchlines. Vous passerez deux heures à vous demander si tous les passagers du train sont de mèche ou bien s'ils vont s'entretuer, surtout si chacun d'entre eux va réussir sa quête. Plus globalement, Bullet Train, c'est une vraie réflexion sur le destin, sur le karma. Je peux vous assurer que vous passerez un bon moment.
Donc ça sort aujourd'hui.
Ça sort aujourd'hui.
Et c'est pas mal hein, pour se rafraîchir si on a trop chaud.
Oui, je vous conseille d'aller au cinéma quand il fait trop chaud.
Bon, et Angèle, si on n'a pas envie d'aller voir Bullet Train ou qu'on a le temps d'aller voir un autre film, qu'est-ce que tu nous conseilles ?
Eh bien, si vous êtes plutôt du genre romantique, j'ai ce qu'il vous faut. Amant super-héroïque. C'est un film du réalisateur italien Paolo Genovese qui s'interroge sur l'amour, oui, sur le couple, ses contradictions, ses joies, et qui pose une question à travers l'histoire de nos deux personnages, Anna et Marco. Quel super-pouvoir faut-il pour s'aimer toute une vie, si tant est que cela soit possible?
Tu t'es jamais dit au moins une fois dans ta vie, lance-toi sans vraiment réfléchir, et avoir ce sentiment de...
De panique.
De liberté, Anna.
La longévité de nos couples.
Bien dit.
T'as quasiment arrêté de parler. Peut-être que ça arrive parce qu'on se dit plus la vérité.
T'as continué à occuper une grande place dans mon cœur. On
peut vous être vus.
Voilà, il y a donc de quoi faire cette semaine.
Ah ouais, mais moi je suis bien tentée par ça.
Oui, moi aussi hein? Plutôt. Hein, donc pour ceux qui préfèrent les films d'action, courez voir Bullet Train.
Chacun.
Voilà, et si comme Anaïs et moi, c'est plutôt le romantisme, voilà, les comédies sentimentales.
On se prendra tête dans la salle de ciné aujourd'hui, puisqu'il fait trop chaud, on se donne rendez-vous. Hein, merci beaucoup Angèle pour ces conseils ciné très très précieux. Si vous voulez aller au cinéma, vous rafraîchir aujourd'hui, c'est toujours une bonne idée. Il est 5h55, vous êtes sur RMC et on va aller retrouver Sébastien Krebs qui nous attend pour Apolline Matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Salut Anaïs, salut Angèle. Ça va, vous êtes en forme?
Bah, bien sûr qu'on est en forme. Elle m'a donné envie de retourner en salle. Ouais. En plus, j'ai pas d'enfant avec moi cette semaine. Donc,
il faut en profiter. C'est franchement l'un des meilleurs plans, le cinéma, pour se mettre au frais quand il fait très très chaud. Et on sait que les salles de cinéma sont pas en très grande forme, donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça donne envie ce film avec Brad Pitt, le retour de Brad Pitt.
Il a fait son choix,
chacun son truc. Mais Bullet Train, je vous le conseille, Sébastien.
Ouais, ok. Eh ben, Angèle, je t'attends. Anaïs aussi. Apolline Matin démarre dans un instant. Et vous êtes tous conviés aussi au 32-16. On se réveille tous ensemble. À tout de suite sur RMC.